en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
L'historien ne se trompe jamais, ou du moins rarement. L'homme politique se trompe souvent, ou en tout cas parfois. C'est la différence entre l'histoire, une science exacte, et la politique, un art incertain comme celui de la guerre, malgré les lois qu'on a prétendu en dégager. Ces quelques phrases devraient suffire. Elles résument le sujet qu'il m'a été demandé de traiter devant vous, histoire et politique, mais est-ce si sûr ? Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères, mesdames, messieurs, l'historien ne se trompe jamais. Il peut vous donner sans erreur l'issue de la bataille d'Austerlitz que vient d'évoquer notre président le 2 décembre 1805, alors que Napoléon se trouvait en état d'infériorité numérique au pied du plateau de Pratzen, sur lequel les forces austro-russes avaient établi un redoutable système défensif. Et pourtant, nous apprend l'historien, Napoléon l'a finalement emporté. Comment, pourquoi, tout est parfaitement expliqué par les biographes de Napoléon. Prenons la bataille d'Ankara en 1402, opposant deux formidables chefs de guerre, Tamerlan et ses Mongols, Bajazet et ses Ottomans. Là encore, en dépit de l'éloignement dans le temps, l'historien désigne le vainqueur Tamerlan et il en donne les raisons. L'historien ne se trompe pas, car il est le prophète du passé. Il décrit les événements d'hier. Et comme il le fait en confrontant scrupuleusement ses sources, des sources qu'il juge sûres qu'il a passées au crible, sa marge d'erreur est faible. Et si les sources font défaut, il pose un point d'interrogation dans l'attente de nouvelles découvertes. C'est Voltaire qui, l'un des premiers dans ses nouvelles considérations sur l'histoire, insiste sur la fiabilité des sources. Raconter l'histoire ancienne, c'est compiler, ce me semble, quelques vérités avec 1000 mensonges. Les sources nous manquent. Il faut savoir les exploits d'Alexandre, comme on sait les travaux d'Hercule. La mythologie ne se confond pas avec l'histoire. Rigueur donc dans la narration du passé, telle est l'exigence de l'historien. Le politique, lui, fait l'histoire, se trouve confronté au présent et doit prévoir l'avenir. Quelle voie choisir ? S'il se trompe, outre les conséquences d'une mauvaise décision, l'erreur sera relevée par l'historien et transmise par ses soins à la postérité. Le politique peut-il l'accepter ? Il a le pouvoir. Quand l'historien est seul face à sa feuille blanche, animée simplement par sa recherche de la vérité. Comment, mes chers confrères, le politique ne chercherait-il pas à lui imposer sa propre vérité ? Prêteur sous Domitien, consul sous Nerva, gouverneur de la province d'Asie, Tacite n'a-t-il pas été soumis à des pressions lorsqu'il écrivit l'histoire de la dynastie précédente, celle des Julio-Claudiens, qu'il importait de noircir ? Je me tourne vers notre secrétaire perpétuel qui nous en donnera sûrement la réponse. Pour Suétone, le doute n'est guère permis. S'il ne modifie pas le cours des événements, il en donne des intentions et des actes sous une image tout à fait négative. Aussi, les historiens vont-ils se trouver en face de souverains qui vont prévenir leurs futurs écrits ? Ces souverains ont eu l'habileté d'avoir des historiographes. Ainsi, Racine pour Louis XIV. Sans doute, note un contemporain, Racine avait-il toutes les qualités nécessaires pour écrire parfaitement l'histoire, mais il était impossible de s'acquitter d'une fonction si délicate avec toute l'exactitude et la fidélité qu'elle exige à la cour d'un roi dont l'éclat éblouissait tous les yeux. Grand roi, cesse de vaincre ou je cesse d'écrire, fin de soupirer ce parfait courtisan qu'était Racine. Et Louis IX serait-il devenu Saint-Louis sans Joinville? De toute façon, l'histoire ne se raconte pas de la même façon selon les régimes politiques. L'image de Napoléon n'a pas cessé de varier. En 1814, à la chute de l'Empire, il est l'Antéchrist, Attila, Jean Giscan pour les historiens de la Restauration. On minimise ses victoires. On grossit ses fautes. L'image qu'en donne le mémorial de Sainte-Hélène, œuvre de propagande bonapartiste, due à Lascaz, un chroniqueur de talent, cette image d'un martyr, sorte de Prométhée cloué sur son rocher hélénien, bouleverse l'opinion et permet le retour des cendres de l'empereur qui va reposer aux Invalides sous la monarchie de Juillet, régime à la recherche d'une caution historique. L'histoire de Napoléon se fait épique sous l'influence du romantisme, puis officielle avec l'avènement du Second Empire. Mais en 1870, après Sedan, on lit désormais dans les écoles les châtiments et plus particulièrement l'expiation de Victor Hugo ou encore le conscrit de 1813 d'Erckmann Chatrian. Les manuels d'histoire de Lavis s'en ressentent. Il écrit, lui qui se veut pourtant l'homme du positivisme, « Une nation commet une irréparable faute quand elle s'abandonne à un homme, alors même que cet homme a reçu le don du génie. » Mais à la recherche d'un modèle pour assurer la revanche sur la Prusse et la reconquête de l'Alsace-Lorraine, les Français redécouvrent, sur la suggestion de Barrès dans les Déracinés, le vainqueur d'Iéna. Et voilà que les batailles redeviennent un thème privilégié des historiens. Foch et Joffre, au sortir de la guerre de 14-18, feront référence au génie militaire de Napoléon. Le bicentenaire de sa naissance en 1969 se passe dans un relatif consensus. C'est que le Parti communiste cite Marx qui voit en Napoléon le destructeur de la féodalité. Il n'en va plus de même aujourd'hui. Refus officiel en 2005 de célébrer Austerlitz, disparition de Napoléon des programmes d'histoire. La raison, Bonaparte a rétabli l'esclavage en 1802, dans le contexte actuel, c'est une décision qui ne pardonne pas. On le voit, l'historien ne peut que difficilement échapper à l'environnement politique de son temps, même si par nature et par obligation d'objectivité, il évite le dithyrambe ou la critique. Du moins, a-t-il la possibilité de se soustraire à cette pression, d'affirmer son indépendance. Le fait nouveau de la fin du XXe siècle, c'est la loi. La loi par laquelle le politique impose sa vérité à l'historien, loi à laquelle celui-ci doit se soumettre. Le 3 mai 1990 est adopté par l'Assemblée nationale par 307 voix contre 265, une proposition de loi déposée par M. Jean-Claude Guessot visant à faire de la contestation publique d'un crime contre l'humanité reconnu comme tel lors du procès de Nuremberg un délit sanctionné au titre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Après passage au Sénat, la loi est promulguée le 13 juillet 1990. Je cite. Constitue désormais un délit le fait d'avoir contesté par des moyens énoncés à l'article 23 l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du dit statut, soit par une personne reconnue coupable de tel crime par une juridiction française ou internationale. On retiendra de cette longue citation le mot « contesté ». Un mot ambigu qui semblerait plutôt viser le polémiste ou le journaliste. Mais l'historien ne pouvait y échapper, car cette loi s'expliquait par l'existence d'un courant historique dit négationniste ou révisionniste qui s'était développé à la fin de 1978 et au début de 1979. Il niait l'existence des chambres à gaz lors de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, et sans doute s'étendait à l'extermination des malades mentaux, des juifs et des peuples considérés comme inférieurs, idées développées à travers des livres ou des articles, comprenant d'ailleurs des notes en bas de page comme dans les travaux érudits, mais soutenues par une idéologie dominante. Ce sont des événements comme l'attentat de la rue Copernic en octobre 1980 et la profanation de sépultures juives provoquant une vive émotion, qui ont attiré l'attention sur des travaux restés jusqu'alors d'une diffusion limitée. Au premier examen, la loi Guesso semblait viser la presse, mais elle pouvait paraître aux yeux de certains observateurs comme limitant la liberté de l'historien. Une première réaction vint de Madeleine Rébériou, longtemps présidente de la Ligue des droits de l'homme, spécialiste de Jaurès et de l'histoire du socialisme, donc peu suspect de faveur à l'égard d'idéologies jugées sulfureuses. Dans la revue L'Histoire, en novembre 1990, puis plus tard dans une tribune libre du journal Le Monde du 21 mai 1996, elle critiquait un texte qui, disait-elle, confiait à la loi ce qui est de l'ordre du normatif et au juge chargé de son application la charge de dire la vérité en histoire, alors que la vérité historique récuse toute autorité officielle. Pierre Vidal-Naquet, principal adversaire du révisionnisme, allait dans le même sens, concluant ses réflexions sur le négationnisme en contestant à son tour la loi Guesso. « Toute autre attitude, disait-il, supposerait que nous imposions la vérité historique comme la vérité légale, ce qui est une attitude dangereuse et susceptible d'autres champs d'application. » Interdire, c'est imposer une histoire officielle. C'est refuser le débat indispensable à la vérité, telle était la conception de ces deux grands historiens que je viens de citer. Ils lançaient un avertissement face à cette volonté du politique de légiférer sur l'histoire. En effet, de nouvelles lois allaient suivre. Loi du 29 janvier 2001 sur le génocide arménien, puis celle du 21 mai 2001 reconnaissant la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. En février 2005, c'est la présence française en Afrique du Nord qui devient proposition de loi. Les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. Comment l'historien n'aurait-il pas pu réagir ? Le 13 décembre 2005 paraît un manifeste intitulé « Liberté pour l'histoire ». On y lit. Ému par les interventions politiques de plus en plus fréquentes dans l'appréciation du passé, Nous tenons à rappeler que l'histoire n'est pas un objet juridique ou une religion. L'historien n'accepte aucun dogme, aucun interdit, ne connaît pas de tabou. L'histoire n'est pas la morale, l'historien n'a pas pour rôle d'exalter ou de condamner, il explique. Et c'est que la diversité des champs concernés par la loi montrait que les risques d'extension à l'ensemble de l'histoire étaient grands. Un débat était déjà né sur la transmission de la science grecque par les Arabes à l'Occident. Les croisades étaient en passe d'être contestées et leur histoire en voie de révision. Le manifeste poursuit « La politique de l'État, même animée des meilleures intentions, n'est pas la politique de l'histoire. C'est en violation de ces principes que certains articles de loi successifs du 13 juillet 1990, du 29 janvier 2001, du 21 mai 2001, du 25 février 2005 ont restreint la liberté de l'historien, lui ont dit sous peine de sanction ce qu'il doit chercher et ce qu'il doit trouver, lui ont prescrit des méthodes et posé des limites. Nous demandons l'abrogation de ces dispositions législatives indigne d'un régime démocratique. Et ce manifeste était signé d'historiens de l'Institut et du Collège de France. La réplique ne tarda pas, car il ne s'agissait plus de savoir si Charlemagne avait ou non de la barbe, ou si Louis XVII s'était évadé du temple. La protestation des signataires du manifeste fut jugée elle-même politique. Une contre-pétition était lancée le 16 décembre 2005, un appel pour une vigilance sur les usages publics de l'histoire. Elle dénonçait l'amalgame entre plusieurs lois, amalgame qui venait de se faire dans le manifeste. Pour l'œuvre positive de la France en Afrique du Nord, disaient les auteurs de ce contre-manifeste, il serait fait d'une position politique le contenu légal d'un enseignement. En revanche, pour les lois reconnaissant des faits attestés de génocide ou de crimes contre l'humanité, il s'agit de lutter contre le déni et préserver la dignité des victimes offensées par ce déni. Ces lois ne restreignent pas, selon les auteurs de la pétition, la liberté de recherche et d'expression, elles prennent simplement acte de faits établis. Le législateur ne s'est pas immiscé sur le territoire de l'historien, il s'y est adossé pour limiter les dénis afférents à des sujets historiques spécifiques. Et, des auteurs de proclamer, l'historien serait-il le seul citoyen au-dessus des lois ? Mais, répliquèrent d'autres historiens, ces lois éliminent le doute, fixent les faits dans le marbre, or l'histoire ne progresse que par des remises en cause, par des débats qui affinent la vérité. Et, nouvelle pétition cette fois de juristes, dont des membres de notre académie, le 29 novembre 2006, demandant l'abrogation pure et simple de ce que l'on appelle maintenant les lois mémorielles qui existent toujours. Ainsi, le politique, appelant au renfort le droit et la morale, fait de l'histoire un thème de polémique. Le choc est d'autant plus rude que l'historien n'écrit pas pour lui-même tel le poète qui se complaît dans ses états d'âme. Les recherches de l'historien sont publiés et deviennent matière d'enseignement. Et l'histoire n'est pas seulement une science, mais aussi un genre littéraire. Les livres d'histoire sont très lus par un large public. L'historien endosse ainsi une incontestable responsabilité. Or, le voilà privé d'objectivité. L'histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on. Et l'on ressort le jugement de Paul Valéry. L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. L'histoire fait rêver, enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient les vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L'histoire justifie ce qu'on veut, elle n'enseigne rigoureusement rien, car contient tout et donne des exemples de tout. Au lieu de se contenter de faire l'événement et de laisser ensuite à l'historien le soin de le raconter, le politique a eu tendance à lui imposer par divers moyens ce qu'il doit écrire. Et, pour être bien sûr de ce que dira l'historien, le politique a utilisé une autre arme, se faire lui-même historien. Certes, il peut écrire ses mémoires, mais considérés comme subjectifs, ils seront suspects et passés au crible. Alors, le politique se transforme lui-même en historien. Pierre, Guizot, Tocqueville ont été ministres ou députés avant d'élaborer une œuvre historique. Ils y apportent, au demeurant, une expérience qui fait défaut dans l'analyse à l'historien proprement dit. Retenons le cas de Thiers, qui commence en 1840 son histoire du consulat et de l'Empire. Il a derrière lui déjà un riche passé politique, ministre de l'Intérieur et deux fois président du Conseil. En 1855, au terme de l'ouvrage, il se livre dans un avertissement. L'histoire, c'est le père instruisant ses enfants. Après une telle définition, la comprenez-vous prétentieuse, exagérée, fardée ou déclamatoire? L'histoire doit être vraie, simple et sobre. Or, quelle est, entre tous les genres d'esprit, celui qui lui conviendra le mieux, pour qui ses qualités seront essentielles? Évidemment, l'esprit intelligent, pragmatique. Et il faut comprendre ici l'esprit politique, qui voit les choses telles qu'elles sont, les voit justes et les veut rendre comme il les a vues. L'intuition fait la force du politique, mais lui aussi ne peut échapper à son action passée, à son idéologie. Thiers s'en défend. J'ai commencé mon histoire en 1840 sous un roi que j'ai servi et aimé, tout en lui résistant sur quelques points. Je l'ai continué sous la République et je l'achève sous l'Empire, rétabli par le neveu du grand homme dont j'ai retracé les actions. Thiers reprend son souffle et continue. Il y a une espérance dont je me berce, c'est que personne n'apercevra dans mes écrits une trace des diverses époques, non seulement dans le fond de mes jugements, mais dans les nuances de mon langage. La subjectivité, le grand danger qui menace plus encore l'homme politique que l'historien. J'espère donc, à nouveau Thiers a repris son souffle, j'espère donc qu'on ne s'apercevra pas que tel jour je fus en possession du pouvoir. Tel autre jour, proscrit, tel autre jour encore, paisiblement heureux dans ma retraite, et que ma raison apparaîtra seule dans mes récits. Mais alors pourquoi ne pas laisser la place à l'historien? C'est que Thiers l'avoue, et il explique que c'est la supériorité de l'homme politique sur l'historien, il a voulu donner son opinion. Celle, dit-il, qui percera seule dans ce livre. On reconnaîtra un historien admirateur ardent de Napoléon, admirateur plus ardent de la France, déplorant que cet homme extraordinaire ait pu tout faire jusqu'à se perdre, mais lui sachant un gré immense de nous avoir laissé, en nous laissant la gloire, la semence des héros. Belle profession de foi, mais la politique va retrouver Thiers. Sa répression de la Commune en 1871 va le discréditer et va paralyser aujourd'hui encore toute réédition de son histoire du consulat et de l'Empire. D'exemple, n'a pas découragé les hommes politiques. Président de la République, président du Conseil, président de l'Assemblée nationale, ministre. Cela va du Napoléon III de Philippe Séguin au Georges Mandel de Nicolas Sarkozy, du Henri IV de François Bayrou au François Ier de Jacques Lang, des 100 jours de Dominique de Villepin au récent mal napoléonien de Lionel Jospin, sans parler de la victoire de la Grande Armée Uchronie de Valéry Giscard d'Estaing. Fascination pour d'illustres prédécesseurs pris pour modèles et revendiqués comme tels. Façon de faire passer un message ou de tirer une leçon en comparant passé et présent. Prendre, à travers un livre, une stature intellectuelle et utiliser sa notoriété pour le vendre, que l'on pense au coup de génie de Thiers, qui, fort de son autorité politique, fait revenir les cendres de Napoléon en 1840, formidable rampe de lancement pour son histoire du consulat et de l'Empire qu'il est en train d'entreprendre. Philippe Séguin échouera dans sa tentative de rapatrier la dépouille de Napoléon III sur l'exemple de Thiers, mais son livre sur ce même Napoléon III n'en aura pas moins un grand succès. Ces hommes politiques invoqueront-ils Voltaire pour écrire des livres d'histoire? Il faut des hommes qui connaissent autre chose que les livres. Notons qu'à aucun moment, le politique n'envisage de supprimer l'histoire. Il en a besoin comme témoin de son action, comme témoin, mais surtout pas comme juge. La fin de l'histoire ne se peut concevoir que comme la fin de la politique. Et comment ne pas tirer des leçons politiques, précisément, de l'histoire? Parler de politique et histoire en un temps aussi court que celui qui m'est imparti tient de la gageure, tant les facettes du sujet sont multiples. En confier, Monsieur le Président, la responsabilité à un historien qui se situe dans la lignée de cette école positiviste des années 1880-1910, qui n'avance que bardée de preuves, de témoignages, de documents passés au crible et que hérisse toute idéologie qui l'éloignerait du rationalisme scientifique, laissant aux philosophes le soin de dégager le sens de l'histoire, tout cela vouait cette communication à des conclusions pessimistes. Les lois mémorielles ont mis en lumière la peur de l'historien d'être manipulé. Son idéal ne serait-il pas de s'enfermer dans une tour d'ivoire, à l'abri de toute intrusion, loin de toute influence, oubliant lui-même ses propres convictions, confrontant, critiquant, éliminant les documents qu'il a rassemblés pour leur arracher ce qu'il croit être la vérité, non pas sa vérité, mais la vérité. Le peut-il? En 2005, président de cette académie, j'avais posé la question « Peut-on faire confiance aux historiens ?» La réponse des communicants fut ambiguë, très ambiguë. L'historien ne se trompe jamais. Son récit des faits est rigoureux, vérifié, contrôlé, mais il n'échappe pas à son époque. Elle le conditionne, lui impose ses interdits et ses non-dits, ses jugements comme le choix de ses sujets. L'historien n'est qu'un homme. Il croit sincèrement être objectif, mais l'est-il vraiment? Mes chers confrères, l'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs. Elle est dictée par eux. Je vous remercie.